Vous écoutez RTL.
Les animaux, les expressions liées à la nature, les dictons, les proverbes, ils sont en permanence dans notre quotidien. C'est ce dont on va parler maintenant avec notre deuxième invité. Bonjour François Lasserre.
Bonjour.
Bienvenue, ravi de vous retrouver.
Mais oui, vous êtes un des habitués de la curiosité, grand défenseur de la nature et des animaux. Tiens, on va faire le lien facile avec les vaches dont on vient de parler. Elles sont très présentes dans notre langage courant. Il y a beaucoup d'expressions... bovine.
Oui, pas mal. Mais plus les animaux sont proches des hommes, plus ils sont domestiques, plus il y a eu d'expressions. Vous connaissez pleuvoir comme vache qui pisse.
Oui. Ça, c'est imagé. C'est parce qu'effectivement, quand une vache pisse.
Voilà, c'est un simple constat. C'est qu'effectivement, quand une vache urine, oui, pisse, il y a environ 2,5 litres d'eau, enfin d'urine qui sort. Et du coup, c'est énorme. Voilà. Alors les Anglais disent il pleut des chiens et des chats. Nous, on dit il pleut comme vache qui pisse.
Et ce vent a décorné un bœuf. Est-ce qu'on sait d'où il vient?
Alors j'ai longtemps cru, comme tout le monde, que le vent était tellement fort qu'il pouvait décorner les bœufs, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ou Philippe a déjà essayé de décorner un bœuf. C'est quasiment impossible. Et en fait, en creusant l'origine, je me suis rendu compte que c'était au moment où on les écornait, où on leur coupait les cornes, pour différentes raisons agricoles. Et le vent fort permettait de sécher les plaies et de chasser les mouches qui peuvent pondre directement sur une plaie. Donc c'était un temps à décorner les bœufs.
Bon, on a encore plein d'autres expressions animalières.
À découvrir dans un instant sur RTL, le coq à l'honneur. Mais savez-vous de quelle région du monde notre coq gaulois est-il originaire? Restez avec nous, les curieux.
C'est dingue. Ouais.
Les expressions, c'est un monde qui s'ouvre. Moi, je voudrais bien aller voir les gars qui les ont faites, les expressions. D'où ça sort, monter sur ces grands chevaux?
RTL.
Poser un lapin, c'est très bizarre, non? Parce que, non, mais on dit faire un tabac. Ou de même, j'ai entendu faire un carton. Oui, comment on fait un carton? On fait comment un carton?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y en a une autre. Alors, celle-ci, si vous y arrivez, envoyez-moi une photo. Faites-moi un frein suivre. Je veux juste vous le voir une fois dans ma vie. Dormir sur ses deux oreilles.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Passez-nous voir sur le stand RTL si vous êtes au Salon de l'Agriculture. On est dans le pavillon 2.2 sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais. Et on remonte aux origines de nos expressions animalières favorites, celles qui nous font mot courir. Vous l'avez entendu grâce à Muriel Robin. On est avec l'entomologiste François Lasserre. Vous êtes donc spécialiste des insectes, hein, si je ne me trompe. C'est le sens du mot entomologiste. Quel est l'insecte le plus présent dans nos dictons, dans nos expressions, François Lasserre?
Alors beaucoup les mouches, les moucherons, ouais, et toutes ces bêtes qui sont encore proches de nous, proche des fermes, donc surtout les mouches. Alors bien sûr, il y a aussi toutes celles qui nous embêtent, donc il y a celles qui sont liées à l'agriculture et toutes celles qui nous embêtent, qui nous piquent, les moustiques, les puces.
Si on a autant dans la langue française, c'est justement parce qu'on est un pays de tradition paysanne, agricole?
Je pense que quand même tous les pays sont d'origine agricole. Ouais. L'homme a été proche de la nature, des animaux sauvages et des animaux domestiques qu'il a fabriqués pendant de nombreuses années. C'est resté ça. Il y a des expressions qui ont des centaines, voire des milliers d'années.
Quand on dit « je suis excité comme une puce », ça nous arrive souvent à la curiosité quand on prépare nos sujets de curieux. Ça vient d'où? La puce est particulièrement... excitée.
Elle est intenable, la puce.
Elle est surtout excitée quand on veut la tuer et quand on la déloge, quand on la retire de nos poils. Mais la puce de l'homme est quasiment en voie de disparition parce que c'était une grande puce qui servait d'ailleurs à faire attirer des petits chars. Je ne sais pas si vous savez, il y avait des cirques avec des puces.
Ouais.
Il y avait des vraies puces. J'ai cru que c'était des.
Moi, j'ai toujours cru que c'était des gags, quoi. Alors, des magiciens qui faisaient semblant d'avoir dressé des puces. Quoi.
Alors aujourd'hui, il y en a qui refont ça. Ouais. Il n'y a pas de puces, mais à l'époque, il y avait vraiment des puces.
D'accord.
Et c'était les joailliers qui, pour montrer leur habileté, avaient réussi à faire un petit anneau d'argent autour du thorax des puces. Et du coup, relié à un petit fil, c'était pour montrer leur habileté. Donc ça servait vraiment à. Et donc. Alors cette puce arrivait à traîner des petits chariots parce qu'elle est très très forte, elle a des cuisses qui lui permettent de sauter très loin, et donc quand elle était délogée, c'est vraiment une grande puce, la puce de l'homme qu'on voit quasiment plus, on voit les puces de chien ou les puces de chat, et du coup, effectivement, elle saute dans tous les sens en cherchant un abri.
Et la puce, elle a disparu parce qu'on a moins de poils, c'est comme les morpions, ça?
Alors,
l'épilation intégrale qui est en jeu.
Vous avez raison, les morpions, le pouls du pubis, c'est quasiment en voie de disparition aujourd'hui, pour les raisons que vous évoquez. La puce de l'homme, c'est plus pour des questions d'hygiène globale, et puis de maisons sèches, etc. Donc voilà, on n'a plus de puce. Avant, on passait un temps obligatoire avec son amant ou son amante dans le lit, à s'épouiller, à s'enlever les puces, etc. Maintenant, c'est terminé. On geek.
On a le nez dans les écrans. Bon, il y a un autre insecte, c'est le cafard.
Beauté, oui.
Le cafard qui a d'ailleurs pas une une très bonne image.
Bah oui.
On dit par exemple avoir le cafard, c'est avoir le moral à zéro. Ça vient d'où ce mot, cette expression ?
Alors ça vient de cette blatte orientale qui a suivi les hommes, parce qu'en fait il y a très peu de blattes qui s'appellent des cafards. Il y a des milliers d'espèces de blattes dans le monde et il y en a que 3 ou 4 qui vivent dans nos maisons et qu'on appelle des cafards. Et le mot cafard vient de kafir, de l'arabe, ça veut dire mécréant, et c'est celui qui fuit la lumière, qui fuit un peu en quelque sorte Dieu. Et du coup, comme les blattes ont tendance à se cacher, c'est un mécréant, et donc elle va dans le noir et dans les idées noires.
Alors moi j'irais bien, tiens, déambuler là dans les allées du salon de l'agriculture.
Et j'ai une mission à finir là.
J'ai des fourmis, encore une vingtaine de minutes. J'ai des fourmis dans les jambes. Est-ce qu'il y a un nom scientifique, tiens, déjà de cette sensation d'avoir des fourmis dans les jambes?
Alors oui, vous me l'avez rappelé et je l'ai.
Vous l'avez noté
de la langue.
Paresthésie, c'est ça?
Paresthésie, exactement. Quand des nerfs sont restés coincés trop longtemps, on a des sortes de picotements qui rappellent un peu les piqûres de fourmis, parce que parfois on peut se faire piquer par des fourmis tout en même temps quand elles marchent sur nous, parce que les fourmis sont des cousines des abeilles et des guêpes, et certaines fourmis ont gardé un aiguillon. Donc parmi les fourmis rouges, il y en a qui nous piquent avec un petit aiguillon. D'accord. Ou d'autres nous mordent. Mais ça peut arriver de se faire mordre par plein de petites fourmis sur la jambe par exemple, et donc on a comme des fourmis...
Cette sensation
des fourmillements, voilà.
On parlait tout à l'heure du coq juste avant la pause. Avec cette surprise, le coq devenu le symbole de la Gaule et aujourd'hui de la France, il est originaire du bout du monde, mais il vient de quel continent ?
Alors il vient plutôt d'Inde, voire d'Indonésie. C'est une race, c'est une espèce c'était une espèce d'oiseau un peu sauvage qu'on a domestiqué il y a bien longtemps. D'ailleurs, beaucoup d'espèces domestiques, à la fois dans les fruits et légumes et dans les animaux non humains, viennent d'ailleurs. Toujours, on est toujours un peu obsédé par ce qui vient d'ailleurs, mais en fait, on se nourrit de choses qui viennent toujours d'ailleurs. On a l'impression que c'est l'emblème de la France, mais en fait, c'est pas officiel. C'est officieux, c'est pas un véritable emblème.
Il n'y a pas une date,
c'est une tradition exactement qui se perd. Alors il y a 1000 explications, parce que tantôt il y a des expressions positives avec le coq, tantôt il y en a des très négatives. Ce serait ce Gaulois fier, vous voyez, qui est fier comme un coq. Un peu. Donc c'est une bête qui vient de loin et qui, soi-disant, annoncerait l'arrivée du soleil le matin. Bon, c'est pas prouvé. Le coq, quand il chante, c'est soit quand il veut marquer son territoire, soit quand il a besoin de séduire une fille, soit éventuellement quand il est un peu énervé, ou pour parfois se faire repérer par un prédateur pendant que les autres vont se cacher. Et on l'entend surtout le matin ou le soir, parce qu'il n'y a pas de
bruit,
et on
n'entend
que ça. Voilà. Sinon, il cocorico toute la journée.
Ouais, François Lasserre, dans votre livre « Comme vache qui pisse et autres expressions animalières » qui est publié toujours chez Delachaux et Niestlé, on pue comme un bouc, on mange comme un cochon et on devient chèvre. Bref, on se croirait dans les allées du salon de l'agriculture.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, tout le monde se retrouve dans On est fait pour s'entendre, le magazine interactif qui vous donne la parole du lundi au vendredi de 15h à 16h sur RTL. RTL.
C'est un vilain défaut.
C'est invraisemblable, ce temps. Il y a 2 minutes, il faisait un temps génial et maintenant il pleut comme vache qui pisse.
RTL.
Je pleure des larmes de crocodile. Certaines fondées, d'autres futiles. Depuis que tu es parti.
On dit toujours un froid de canard et les pingouins trouvent ça bizarre.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les expressions animalières au salon de l'agriculture, RTL en force dans ce salon avec la curiosité en direct jusqu'à 15h. Et puis pendant toute la semaine, venez nous voir, ça nous fait plaisir. Nous sommes dans le pavillon 2.2. Vous pourrez croiser demain, par exemple, Julien Courbet et son équipe. Et puis jeudi, Stéphane Bern et toute sa bande. Et nous, on continue d'explorer comme ça ces expressions qui nourrissent notre langage au quotidien. Nous sommes avec le naturaliste François Lasserre. Et c'est une expression qui est vraiment d'actualité. On l'emploie au moins 20 fois par jour, j'ai la chair de
ça,
poule.
C'est
la vague de froid nous crispe comme ça cette peau. Mais ça vient d'où cette expression ?
Alors ça vient d'où ? Alors s'il y a des jeunes lecteurs, en fait, faut peut-être rappeler ce qu'est une chair de poule.
Parce même voir des auditeurs pour nous, des jeunes lecteurs.
Mais surtout les jeunes qui n'ont pas forcément vu ce qu'était une chair de poule déplumée.
Ah oui.
Finalement,
oui.
On ne les voit que dans du nuggets ou dans des barquettes, mais il y a beaucoup d'urbains qui n'ont jamais vu une chair de poule. En fait, c'est une chair de poule déplumée quand on arrache les plumes des poules. chaque endroit où il y avait une plume, ça fait un bibouton, enfin vous, vous le savez bien. Ouais. Et du coup, quand on a froid, notre peau ressemble à une chair de poule déplumée.
Et en fait, cette réaction, elle s'explique, elle vient comment en fait?
Alors, elle vient, elle est venue au cours de l'évolution, elle s'appelle l'horripilation. Alors, je ne sais pas si ça vient d'où vient horripiler, mais ça doit être lié. Ça s'appelle l'horripilation. En fait, c'est un réflexe de nos muscles qui fait que quand il fait froid ou quand on a une forte émotion, nos poils se dressent.
Ça a une utilité, forcément, parce que la nature n'est jamais faite par hasard.
Et donc, cette utilité, comme vous dites, c'était le fait de dresser les poils et du coup d'apporter une couche d'air supplémentaire plus grosse autour du corps qui permet de s'isoler contre le froid. Et puis, parfois, c'est quand on a peur ou quand on a une émotion forte, alors il y a différentes explications, mais ça pourrait être aussi le fait, parce qu'il y a beaucoup d'autres animaux qui le font, c'est quand on a très peur, c'est se gonfler pour paraître, et du coup ça permet de paraître plus
imposant,
gros,
oui,
voilà, plus imposant.
Sûr.
Et du coup avant on était plein de poils, on avait beaucoup plus de poils, et donc quand nos poils se dressaient parce qu'on était horripilés, et ben ça faisait peut-être plus peur aux prédateurs ou aux autres bestioles.
Et ben voilà, on a compris l'origine de cette expression avec vous, François Lasserre. C'est génial parce que si on va se balader là dans les différents pavillons du Salon de l'Agriculture, tiens, dans le pavillon 1, celui des ovins, caprins et porcins, on a plein d'expressions qui nous viennent. Voilà un bouc, et si on s'approche, on comprend vite d'où vient l'expression « puer comme un bouc ». Ça sent vraiment mauvais, et à cause de quoi?
Alors, je me demande d'ailleurs si un bouc, en passant près de nous, se dit la même chose. Qu'est-ce que ça pue comme
bien
un
sûr.
Humain?
Bien sûr.
Parce que cette odeur lui permet de marquer son territoire et de séduire une femelle. Donc les femelles.
Et pas vous, Thomas.
Les femelles de bouc.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Les chèvres adorent l'odeur qui est sécrétée par des glandes anales des boucs, effectivement, qui nous déplaisent fortement.
Et cette expression que j'adore, moi, c'est devenir chèvre. Ça vient d'où?
Alors, devenir chèvre, je l'ai vu, je l'ai pas trouvé. J'ai
oui.
pas trouvé
ah, c'est
la,
vrai ah, parfois, vous n'avez pas de réponse. Ça me rassure, ça dit que vous êtes un humain.
Alors tout à fait. Alors, dans le livre, les expressions animalières et le livre sur les dictons, c'est un vrai sacerdoce de trouver l'origine exacte, etc.
Parfois,
etc.,
on ne les retrouve pas, les origines, c'est
et
ça.
Et parfois, on ne les retrouve pas, ou alors on les retrouve pas, ou alors c'est du conditionnel. Et du coup, il y a des fois, j'ai dit, bon, je ne vais pas en parler parce que c'est trop
conditionnel. C'était pour vous faire devenir chèvre. C'était pour ça. On dit
sale comme un cochon ou manger comme un cochon. Et là aussi, c'est assez impropre, si j'ose dire, parce que les cochons, les sangliers sont pas si sales.
Alors c'est même à l'opposé, puisque quand un cochon est sale, c'est qu'il est propre. C'est-à-dire, en fait, les sangliers et les cochons qui sont des sangliers devenus domestiques se roulent souvent dans la boue, ça leur permet d'éviter d'avoir des parasites et de se laver. Donc en fait, c'est leur bain, la boue. Alors c'est vrai que nous, la boue, on l'associe à la saleté. Et puis quand ils mangent, parfois ils font des grognements entre eux.
C'est bien le cochon, hein.
C'est pas complètement, mais je vais creuser. Et ça, quand ils ont la truffe, quand les sangliers ont la truffe dans le sol, en train de chercher des glands, des larves d'insectes, ils mangent tout ce qui est dans le sol, ils font des petits cris de contact, comme ça s'appelle des petits cris de contact, ça leur permet de garder le contact avec leurs congénères. Donc non seulement ils ont la truffe dans la terre ou dans la boue, en plus ils grognent. Bon, bref, on a l'impression qu'ils sont sales et c'est tout le contraire.
La curiosité continue, on se régale. Merci d'avoir choisi la première radio de France. On a encore plein de dictons trouvés dans le livre de notre invité, Araignée du soir, espoir. Mais pourquoi d'ailleurs? D'où vient cet espoir? Réponse dans un court instant. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans la basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est dingue, même les poules dansent le rock sur RTL et elles inspirent beaucoup de dictons et d'expressions françaises que l'on découvre avec notre invité, le naturaliste François Lasserre. Par exemple, François Lasserre, l'expression « quand les poules auront des dents », vous la trouvez hasardeuse. Pourquoi ?
Ben oui, parce que les poules ont eu des dents et auront peut-être des dents.
Elles ont eu des dents ?
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, les dinosaures n'ont pas tous disparu. Il y a une branche des dinosaures qui est toujours sur Terre, que vous mangez, crabouillez dans des nuggets, ce sont les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures théropodes actuels, à 100%. Ils ont un ancêtre commun avec les tyrannosaures. Et donc, ces poules, en quelque sorte, ont eu des dents. Alors maintenant, elles ont évolué vers des animaux avec des becs qui n'ont plus de dents. Mais peut-être qu'un jour, l'évolution leur réapportera des dents si ça sert à quelque chose. Donc,
d'accord, alors, c'est pour ça que vous dites, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas, pour demain, mais quand même, on a vu des espèces se créer en quelques décennies. C'est arrivé, donc ça pourrait être demain.
Alors, dans votre livre sur les dictons animaliers qui est publié chez Delachaux et Niesley, il y a cette expression, alors que moi, je ne connaissais absolument pas, « âne qui saute et braie sans fin ». Pluie pour demain. Il y a énormément d'expressions qui sont liées à la météo, en fait. C'était quoi ? C'était pour se rassurer qu'on inventait ces expressions ?
En fait, on n'avait pas grand-chose à faire. Hein. On geekait moins, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on
n'avait pas de Louis Baudin non plus.
On n'avait pas de livres, etc. On s'occupait, c'était une tradition orale, etc. Et alors, quand j'ai écrit le livre sur les dictons, j'aurais bien aimé quelque chose soit vrai. En plus, c'est sympa d'être proche de la nature. Vous voyez des hirondelles faire ci, vous dites, ah, ça y est, il va faire. Ouais. Voilà, ça aurait été chouette que les choses soient vraies. Et puis, en fait, en creusant, tout s'avère un peu moins faux.
Une hirondelle ne fait pas le printemps, quand même, il y a un peu de vrai là-dedans. Pas tant que ça.
Les hirondelles, en fait, ne voyagent jamais seules. Les premiers qui arrivent, c'est les mâles, aux alentours du 10 mars. Et elles arrivent en général en groupe. Alors, viennent ensuite les femelles adultes, les jeunes, etc. Donc peut-être qu'un petit peu plus tard, le printemps s'installe vraiment, mais elles arrivent de toute manière à partir du 10 mars, et toujours en groupe. Donc on pourrait presque dire qu'une hirondelle fait le printemps. Mais donc j'aurais adoré qu'il y ait des petits trucs comme ça à raconter aux gens, et en fait l'histoire des dictons, alors non seulement il y a très peu de scientifiques qui sont penchés sur la question, qui ont fait le lien entre des hirondelles qui montaient dans le ciel, l'arrivée de l'orage, la pression atmosphérique, etc. Bref, on n'a pas d'argent à dépenser pour ce genre de choses. Ouais. C'est très rare. Le seul qui a été vérifié, c'est Noël au balcon, Pâques au tison. C'est-à-dire que s'il fait doux à Noël, il va faire froid à Pâques. Bon, ça a été vérifié parce qu'on a les bulletins météo sur les 100, 200 dernières années. Et il se trouve que c'est faux. Donc il n'y en a quasiment aucun qui est vrai.
Et sur les araignées, tiens, on termine avec les araignées.
C'est vrai qu'il y a pas mal d'expressions. Par exemple, araignée du matin, chagrin, araignée du midi, souci, araignée du soir, espoir. Déjà, d'où vient ce dicton ? Est-ce qu'il est vérifié, comme vous dites ?
Alors, il n'est absolument pas vérifié. En revanche, ce qu'on sait, c'est que quand même, les petits animaux, les araignées, les insectes, les toutes petites bêtes sont assez sensibles aux variations et ça va changer quand même le cours de leur vie. S'il y a du vent, de la pluie, l'araignée qui a fait un piège à un insecte, une toile, elle est un petit peu embêtée. Donc on pourrait dire que certaines araignées, quand elles retendent un peu leur toile, c'est qu'elles sentent qu'il va faire mauvais temps et donc
elles s'adaptent au climat quand même.
Elles solidifient un peu, peut-être, et donc ce serait peut-être cette araignée du matin chagrin. La soie est constituée d'eau, donc peut-être que quand c'est très humide, elle utilise l'humidité de l'air, ça lui permet de mieux fabriquer ses fils de soie. Mais tout ça n'est pas vérifié. Et je vous donne une autre façon dont on a de notre esprit est souvent mal fait. Par exemple, les araignées, on dit qu'elles rentrent dans les maisons à l'automne, on dit l'araignée rentre dans les maisons à la fin de l'été ou au début du printemps. Et en fait, on fait une mauvaise association. On fait l'association météo et la présence de l'araignée dans la maison. Et en fait, il faut faire une autre association qui est présence de l'araignée et maturité sexuelle du mâle. Et en fait, il est sorti de sa cachette. En fait, il était chez vous, il n'arrive pas dehors.
Il était déjà
et
là.
Donc, dans les dictons, on fait comme ça plein de mauvaises associations. Notre esprit m'a fait pour ça, en tout cas.
Et garder les araignées chez vous, c'est bon pour la maison. Hein. Vous nous aviez déjà dit ça, on le rappelle. Merci beaucoup.
Merci à vous.
François Lasserre. Deux de vos livres nous ont permis de préparer l'émission, comme Vache qui pisse et autres expressions animales. Et puis, Araignée du soir, Espoir, voilà, c'est chez Delachaux et Niesley.
Vous écoutez RTL.